Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans le cadre de cette session Perception multimodale, je vais vous présenter quelques avancées récentes en termes d'odométrie 3D. Alors, je vais m'intéresser à deux modalités que sont la vision et le lidar, et l'application sera les véhicules intelligents. Alors, qu'est-ce que j'entends tout d'abord par véhicule intelligent ? Donc, pour moi, un véhicule intelligent, c'est un véhicule, donc vous allez le voir par la suite, automobile, qui est capable de percevoir son environnement, d'interpréter ce qu'il observe, et enfin, de réagir. Alors, de réagir comment ? Soit de réagir de manière autonome, soit de réagir avec le conducteur. Donc, les modalités à l'heure actuelle qu'on peut avoir sur le véhicule donc, sont des modalités vision, à la fois extérieure, intérieure, de la perception télémétrique, base de laser, des systèmes de télécommunication intervéhicule, donc un système de localisation globale de style GPS, et comme l'a montré Mann, donc des bases navigables 3D ou autres. Donc, toutes ces informations-là, à l'heure actuelle, sur les véhicules, circulent donc sur un bus. Et on a aussi, donc, en plus des capteurs dits extéroceptifs, on a aussi des capteurs proprioceptifs. Donc, typiquement, l'odométrie des roues et des informations inertielles qu'on peut avoir par ailleurs. Alors, pourquoi faire ça ? Ça va être pour réaliser des fonctions d'aide à la conduite, donc fonctions dites ADAS. Donc, pour des situations de type pré-crash, collision, asservissement de vitesse ou détection de piétons ou de franchissement de ligne ou de franchissement de voie. Alors, d'un point de vue industriel, alors je vais faire un peu de pub pour Toyota. Donc, sur certains véhicules haut de gamme, donc en plus ça apparaît en option. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui existe ? Donc, sur le modèle Lexus LS, à l'heure actuelle, ce véhicule est équipé de deux radars millimétriques, avant et à l'arrière, qui réalisent des fonctions de détection d'obstacles. Alors, quand l'obstacle est un piéton, on utilise un capteur supplémentaire, donc il y a un banc stéréoscopique fixé au niveau du rétroviseur. Et quand les conditions de luminosité commencent à être dégradées, eh bien, il y a des projecteurs quasi-infrarouges dans les phares, donc qui permettent d'augmenter le contraste qu'on a sur les objets à détecter. Donc ça, c'est d'un point de vue industriel. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, hein, il y a d'autres systèmes, essentiellement, d'ailleurs, basés radar. Si on se place ensuite d'un point de vue plus académique, on peut regarder ce qui se fait dans les challenges universitaires, donc de type DARPA Challenge, donc que ce soit Grand Challenge ou Urban Challenge, ou alors des challenges de type ceux qui ont été présentés à IV 2009. Donc là, je vous ai présenté les deux véhicules, à savoir celui du CMU et de Stanford. Et ce qui est intéressant de remarquer ici, par rapport aux véhicules commerciaux, entre guillemets, c'est l'apparition de capteurs de type LIDAR. D'accord ? Donc LIDAR, soit LIDAR à une nappe, soit des LIDAR multinappes 3D. Donc j'y reviendrai après. Alors si je résume, ce qui va m'intéresser dans cet exposé, ce sont les capteurs dits extéroceptifs. Donc si je reprends, je vous ai parlé des capteurs radar. Donc on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est une technologie mature, surtout pour des applications de type détection d'obstacles. En ce qui concerne le LIDAR, ça c'est plutôt une utilisation issue de la robotique mobile et qui commence à venir donc, sur les véhicules automobiles. Et avec ces LIDAR, donc, on peut réaliser la localisation et la détection d'obstacles. Enfin, les capteurs bien connus, donc les capteurs de vision, mono, stéréo, omni, qui permettent aussi donc, de faire, à l'heure actuelle, de la localisation, de la détection d'obstacles, mais aussi, donc, à plus haut niveau, de faire de la reconnaissance et de l'interprétation de scènes. Alors, si je reviens sur la notion d'odométrie, vous me direz, normalement, la notion d'odométrie, c'est bien relié aux roues du véhicule, donc c'est une info qui est fermée sur l'extérieur, alors que la perception extéroceptive, c'est mouvement ouvert sur l'extérieur. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, les véhicules, ils ont, comme je vous ai montré sur la Lexus, où ils auront des systèmes de perception extéroceptifs de type donc radar, lidar, vision, notamment pour les détections d'obstacles. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est d'essayer de voir si, dans ces fonctions de détection d'obstacles, on ne peut pas aussi utiliser ces capteurs extéroceptifs conjointement pour faire de l'odométrie, et en plus, si c'est possible, de l'odométrie 3D. Donc, pour exploiter ces modalités, ce que je vous mets ici, c'est que non seulement on va pouvoir les utiliser pour améliorer l'odométrie existante sur les roues, ou alors, à la limite, utiliser la vision et le lidar et se passer complètement de l'info, d'odométrie roue, je vous rappelle, hein, qui est toujours sensible au glissement et sujette à la dérive. Alors, le plan de l'exposé, donc, c'est le suivant. Dans un premier temps, donc, je vais vous montrer ce que j'entends par odométrie 3D. Je continuerai par vous présenter chaque modalité, donc ce qui existe en termes d'odométrie basée lidar, en termes d'odométrie basée vision, et enfin les travaux relevant de l'odométrie multimodalité. Puis je finirai donc par la conclusion et les quelques verrous actuels sur ces techniques-là. Alors, pourquoi l'odométrie ? Donc on ne va pas faire de l'odométrie comme ça pour s'amuser. L'idée, c'est de se dire, bah, l'odométrie, qu'est-ce que c'est ? Au final, c'est une technique de localisation. Et cette technique de localisation-là, elle va nous permettre d'estimer le mouvement complet du porteur. D'accord ? Mouvement complet, donc je ne veux pas seulement la position, comme le fournit le GPS, je veux aussi l'attitude du véhicule. Alors, l'odométrie 3D, on va s'en servir pour quoi ? On peut s'en servir pour, a priori, trois choses dans un premier temps. La localisation, à l'heure actuelle, elle est effectuée essentiellement par le GPS. C'est la seule info de localisation 3D qu'on a disponible dans le véhicule. L'idée, c'est dans un premier temps, comme vous le savez, quand on utilise le GPS, il y a ce qu'on appelle le phénomène de masquage lié donc à l'environnement ou alors au positionnement des satellites, etc. Donc, dans ces cas-là, on peut, même quand on a le signal GPS, améliorer la localisation 3D. D'accord ? Donc là, on va, en utilisant la perception extéroceptive, ce qui nous intéresserait, ce serait d'améliorer la précision et l'intégrité de la localisation GPS. Comme je vous l'ai dit ensuite, si jamais le signal GPS est masqué, dans ces cas-là, ça serait bien d'avoir un système qui permette de prendre la relève tout en nous fournissant une information 3D de localisation. Donc l'absence de signal GPS, on le rencontre, notamment dans ce qu'on appelle les canyons urbains entre bâtiments, donc quand on passe dans un tunnel, etc. Et enfin, le troisième point intéressant, c'est que, je vais revenir là-dessus dans la suite, l'application automobile qui nous intéresse, c'est une navigation routière. C'est-à-dire que cette navigation routière-là, c'est une scène qu'on va appeler dynamique. C'est-à-dire que le porteur est en mouvement, mais la scène aussi évolue. Donc quand on veut faire la détection d'obstacles, et plus spécifiquement de la segmentation des obstacles, donc si on veut essayer d'estimer les trajectoires des différents obstacles par rapport au porteur, eh bien, déjà, il va falloir localement se localiser de manière précise. Alors, d'un point de vue un petit peu plus formel, qu'est-ce que l'odométrie 3D ? Donc, l'odométrie 3D, le terme anglo-saxon, c'est Ego Motion. Donc, l'idée, c'est de connaître ici les 6 degrés de liberté. Alors, vous pourrez me dire, par exemple, pourquoi 6 degrés de liberté sur un véhicule qui navigue sur une route ? Eh bien, par exemple, comme l'info GPS est 3D, on peut dire, quand on passe par exemple sur des routes multiniveaux, il peut être intéressant aussi d'avoir la hauteur du véhicule. D'accord ? Donc là, il faut vraiment une information pleinement 3D avec les 6 degrés de liberté. Comment on obtient ces 6 degrés de liberté ? En fait, l'idée, c'est d'estimer les pauses relatives entre deux instants de temps. Et ça, on va le faire à partir d'un repère initial. Par exemple, on fixe le repère initial au moment où on va perdre le signal GPS. Donc, comment modéliser ça ? Donc, vous l'avez ici. Donc, les 6 degrés de liberté, ils sont modélisés par la position à l'instant t, comme la position à l'instant t-1, plus, donc, ici, la partie donc delta p de t, qui est la variation de la position. Et ensuite, en termes d'orientation, donc si on représente ici, j'ai représenté ça sous forme de quaternion, donc on va faire le produit du quaternion précédent avec la variation qu'on a obtenue justement d'un point de vue estimation odométrique. Alors, ce qui est important ici, c'est que par exemple, si je fixe l'état de mon système, donc ça va être l'état suivant, S de T, ce que je vais essayer de faire, c'est d'utiliser la nature de la boucle verte. de l'odométrie, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas m'intéresser ici au problème de SLAM. C'est-à-dire que quand je vais estimer la pose du véhicule, je ne veux pas cartographier l'environnement. D'accord ? Donc je vais justement essayer de ne pas reboucler ça et rester en boucle ouverte pour voir quelles sont les performances de mon système. Et enfin, donc un point sur lequel je reviendrai derrière, c'est que l'état, donc l'estimation qu'on va faire, et c'est celle-ci justement, c'est là-dessus qu'apparaît la dérive, c'est qu'on va formaliser une certaine incertitude, donc là que j'ai modélisé par une matrice de covariance, bien sûr, on pourra utiliser d'autres formalismes pour ça, on verra ça par la suite. Alors l'environnement de perception, comme je vous le disais, là c'est très important par rapport à ce que je vais vous présenter, c'est qu'on va se placer dans un cadre routier. Cadre routier, et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on sera en environnement dynamique. Donc en environnement dynamique, ça veut dire qu'il y a des objets qui vont croiser la trajectoire de notre porteur. Donc, ou alors, qui vont croiser la trajectoire, et qui auront eux aussi des dynamiques différentes. L'autre point, c'est que le véhicule lui-même a une dynamique importante, c'est-à-dire qu'il va y avoir des accélérations, il va y avoir des trajectoires critiques, je vous montrerai après sur les résultats, notamment l'arrivée dans les ronds-points. Et il existe, pour notre système, ici, des conditions adverses. Alors, les conditions adverses, qu'est-ce que c'est ? Pour les caméras, par exemple, ça va être les éblouissants, la pluie, la neige. Donc, la pluie, ça va aussi, par exemple, interférer sur le signal LIDAR. Ça va être le brouillard, la nuit. Et dans les conditions adverses, j'inclus aussi l'absence de signal GPS. Alors, ce qui est important ici, dans la mesure où on a une dynamique du porteur importante, c'est que la trajectoire 3D qu'on va estimer, en fait, elle va être discrétisée. Je vous donne un petit exemple ici. C'est-à-dire, par exemple, si notre véhicule se déplace à 50 km/h, si on a un capteur qui fait des acquisitions à 20 Hz, eh bien, on va se déplacer de 70 cm entre deux acquisitions. Donc, c'est pour ça que notre système, il va falloir qu'il réponde à des contraintes de temps réel, notamment au niveau du milieu routier. Et enfin, le point important, par rapport à ce qui est fait d'un point de vue académique, comme les challenges universitaires, c'est qu'on doit aussi respecter les contraintes d'intégration du milieu automobile. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre un LIDAR sur le toit. Le LIDAR, dans les contraintes automobiles, c'est à l'avant dans le pare-chocs, d'accord ? Comme le radar. Et les caméras, ce ne sera pas sur le toit, ce sera derrière le pare-brise, de préférence au niveau du rétroviseur. Voilà, donc on va essayer de respecter aussi ces contraintes-là. Alors si on balaye rapidement, alors c'est vraiment pas du tout exhaustif, donc là j'ai vraiment pour plus de détails sur les méthodes et les approches, donc je vous renvoie au papier, mais on peut ici lister les approches principales que je vais retenir dans l'exposé aujourd'hui. Donc pour les approches de SLAM, bien évidemment il y a l'aspect cartographie, mais on peut en sortir une info de localisation 3D. Donc pour les méthodes de SLAM, qu'elles soient visuelles ou non, et puis les méthodes de SLAMOT où on fait du SLAM et on fait aussi du suivi d'objets mobiles, donc là je vous renvoie au JNRR précédent où il y a eu un très bon exposé donc, sur le SLAM visuel. Donc voilà quelques références par rapport aux méthodes qui existent sur l'odométrie basée LIDAR. On peut voir les méthodes à base de scan matching, donc je vais détailler ces méthodes là après, ou de grille d'occupation. Et enfin, il y a eu beaucoup de travaux sur l'odométrie visuelle, à proprement parler, donc que ce soit en utilisant un capteur mono, stéréo ou omni. Et enfin, donc les travaux qui nous intéressent ici plus particulièrement, c'est ce qui concerne donc l'odométrie par fusion multimodale. D'accord ? Donc en essayant d'utiliser conjointement l'info LIDAR et l'info vision. Alors pour commencer, donc je vais vous présenter les différents capteurs. Donc pour commencer, on va regarder les méthodes basées LIDAR. Alors je vous rappelle, donc là, ici, on a deux capteurs LIDAR. Donc un capteur ici IBO, donc qui est normalement 4 nappes. Donc ici, vous avez la représentation. Et un capteur LIDAR style Velodyne qui vous fournit donc une carte 3D, donc à 64 nappes, je crois, qui fournit une carte 3D de l'environnement. Donc le principe du LIDAR, pour résumer, hein, c'est la mesure du temps de vol d'une onde lumineuse cohérente qui sera proportionnelle au double de la distance d'impact. Alors les avantages. L'avantage de la technologie LIDAR, c'est qu'on a une information de profondeur directement disponible. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Et surtout que c'est, même si à longue distance, on a un phénomène de tache, d'accord, de dispersion du faisceau laser, on a quand même une bonne précision et une portée importante. Et on peut dire qu'on a quand même une certaine indépendance vis-à-vis des conditions d'éclairage, même si ce n'est pas tout le temps vrai, c'est quand même relativement robuste. Les inconvénients, par contre, sont liés notamment à la résolution. Donc les trames laser sont quand même assez, assez fortement discrétisées. Il peut y avoir un phénomène de mesure fantôme et aussi un phénomène de multitrajet sur les ondes laser. Et ça peut dépendre aussi le retour de l'onde du matériau sur lequel s'est réfléchi le laser. Et enfin, le point qui, à mon avis, freine un peu les constructeurs automobiles, c'est que ça reste un capteur actif et surtout motorisé. Alors là, je m'entends motorisé pour les capteurs LIDAR à balayage. Alors, par rapport aux méthodes que je vous ai présentées précédemment, bon, je pense que vous connaissez à peu près tous cette méthode dite de scan matching. Donc, la méthode de scan matching, elle est assez simple. C'est-à-dire que l'autre inconvénient, enfin, en comparant avec le capteur de vision, c'est que les impacts télémétriques, on ne peut pas avoir une info photométrique ou une info plus ou moins discriminante d'un point de vue signal de la mer qu'on va frapper. Donc, on a juste une info purement géométrique. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, à droite, ici, vous avez deux nappes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, normalement, il y en a une qui est rouge, une qui est bleue. Donc, on a deux trames laser à deux instants de temps successifs. Le scan matching, en fait, donc pour le lier à l'odométrie, ça va être de trouver la transformation optimale en termes de rotation et translation entre deux nuages de points 3D. Donc, point ou autre, hein, ça peut être d'autres primitives. Si on a une mise en correspondance des points qui peut être faite, dans ces cas-là, c'est assez trivial, c'est-à-dire que la translation, on l'a en utilisant, donc en calculant les centroïdes des deux nuages de points, une fois qu'on a la matrice de rotation, on recale tout ça et entre les deux, entre une des centroïdes et l'autre transformée par rotation, on fait la différence, on a la translation. Et quand on construit à partir des deux ensembles de points 3D la matrice de variance-covariance, eh bien on calcule là-dessus une décomposition en valeur singulière et ça nous retourne la matrice de rotation. Par contre, si on n'a pas de mise en correspondance entre les points, donc c'est le cas pour les impacts LIDAR, il va falloir utiliser donc un algorithme qui est bien connu normalement, qui s'appelle l'algorithme ICP pour Iterative Closest Point, donc qui date 1992. Alors je vais vous le détailler un petit peu, cet algorithme. Donc le principe, il est assez simple. Donc c'est de trouver la transformation optimale. Donc là, j'ai modélisé encore la rotation en quaternion et puis la translation petit t entre deux ensembles de points que je vais noter P et X qui n'ont pas forcément le même nombre d'individus. Donc on initialise l'itération ici, donc ça va être un algorithme, ce qui est important par rapport à la technique de SVD, bon, même si derrière la SVD c'est un algo itératif. Ici, c'est que la calcul de la transformation se fait à peu près comme la SVD, mais il y a un point important, c'est l'étape de calcul des plus proches voisins. C'est-à-dire que d'un point de vue combinatoire et de manière itérative, il va falloir explorer l'ensemble des combinaisons, des points 2 à 2, qu'on va pouvoir faire pour estimer la transformation. Donc si on faisait ça de manière brutale, au pire des cas, on serait en ONXNP. Avec l'utilisation d'une modélisation en arbre binaire, là, on tombe à du ONX2NP. Voilà, donc et la sortie de cet algo-là, donc en fixant un seuil de tolérance sur les résidus qu'on va obtenir par la transformation, on obtient normalement donc la transformation qu'on voulait. Alors pour continuer sur les travaux à base de LIDAR, il existe un autre formalisme, plutôt que d'utiliser le scan matching donc au bas niveau, c'est de modéliser l'environnement autour du véhicule par ce qu'on appelle des grilles d'occupation. Donc les grilles d'occupation, c'est un principe introduit par ELF, fin des années 80, début des années 90, où l'idée est la suivante, c'est de discrétiser l'environnement autour du véhicule en cellules. Donc là, je vous donne un exemple. Et en fait, chaque cellule va contenir la probabilité qu'elle soit occupée ou vide. Donc finalement, on va faire là, donc je prends cet exemple-là, ici où au final, on a une localisation, une odométrie plutôt 2D, on va le voir. Et en fait, c'est utilisé pour faire de la détection d'obstacles. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la fois cartographier l'environnement et se localiser. Donc on ne va pas être très loin du SLAM dans ces méthodes-là. Donc, et en plus, il va falloir avoir un modèle de capteur probabiliste. Donc l'idée ici, ce qui nous intéresse, c'est la localisation. Donc on n'utilise pas de méthode de scan matching, mais à la place, on va maximiser une fonction de vraisemblance qui est le produit donc, entre un modèle de mesure et un modèle de déplacement. Donc le temps de calcul est intéressant pour les applications automobiles et de l'ordre de 10 millisecondes. Donc là, à l'heure actuelle, c'est une méthode 2D. Alors il y a des travaux récents proposés ici chez Toyota encore, qui font une grille d'occupation 3D. Et cette grille d'occupation 3D, en fait, elle est initialisée en utilisant donc, l'algorithme d'ICP que je vous ai présenté précédemment. Donc en fait, il y a une première étape de scan matching. Et ensuite, on va affiner le résultat de l'estimation avec une technique un peu ressemblante à du filtrage particulier, pour lequel on va perturber le modèle probabiliste qu'on a du véhicule, donc suivant certains degrés de liberté, et on va calculer là encore une vraisemblance, et on retient donc le maximum de vraisemblance, et ça permettra comme ça d'avoir le mouvement du véhicule. Alors pour continuer, je vais peut-être accélérer un petit peu, l'odométrie basée vision. Bon, les capteurs de vision, je pense que vous les connaissez tous, donc que ce soit mono, stéréo ou omni. Après, donc ensuite, il y a les cathèdes optiques. Donc là, si on regarde les avantages et inconvénients, les avantages, bien entendu, donc, c'est la richesse d'information, le coût qu'on peut avoir comparé à un lidar, et enfin, le fait que ce soit donc un capteur passif. Par contre, le gros des avantages, c'est que ce sont des capteurs donc très sensibles aux conditions d'éclairage et que les mesures de profondeur, donc nous on va essentiellement s'intéresser aux capteurs stéréo, elles sont disponibles mais indirectement via un pré-traitement. Donc les méthodes d'odométrie basée vision en général elles répondent toujours à peu près au même schéma. Donc si on a un capteur stéréo qui se promène en 3D comme ça et qu'on veut estimer entre deux déplacements l'odométrie, eh bien, en général, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, ça ne va pas plaire à Riyad, mais il va falloir faire une extraction de points d'intérêt, et très souvent SIFT, d'ailleurs, maintenant, ça tourne plutôt bien. Et du coup, ou alors, il y a des versions un peu plus light, hein, style Surf, ou alors des récemment, donc Censure, ici. Et donc, on va faire ça dans l'image de gauche. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire une mise en correspondance. Donc, on va calculer une carte de disparité, donc la discrète, si on se base sur les points d'intérêt. Et ensuite, donc on va faire une étape de tracking, toujours dans l'image de gauche, où là, entre T et T-1, on va mettre en correspondance les points d'intérêt, donc avec un critère de corrélation quelconque, ou faire du Lucas Canadé, ou autre, avec du calcul de flow optique. Enfin, on va estimer le déplacement, donc en utilisant très souvent une méthode robuste, donc qui tourne en temps réel, à l'heure actuelle, donc une méthode de Ransac, si possible sur trois points. Donc, et là-dessus, pour affiner le mouvement que l'on a fait, donc par exemple sur les n vues précédentes, eh bien on va utiliser une méthode d'ajustement de faisceau. Alors ça je passe, je réexpliquais le principe stéréo, bon je pense que le calcul de disparité tout le monde connaît à peu près. Donc là j'ai extrait des travaux donc, d'odométrie visuelle multimodale donc sur des trajectoires, cette trajectoire là fait à peu près 9 km, l'autre en fait 5. Donc là c'est des travaux de robotique mobile, hein. c'est pas de véhicule. Alors vous avez les courbes, alors du coup c'est un peu embêtant parce que vous pouvez pas très bien voir, mais en fait il y a donc la vérité terrain en rouge qui est donnée par un GPS en mode différentiel. Il y a de l'odométrie visuelle donc sans bundle adjustment, sans ajustement de faisceau éparse, avec l'ajustement de faisceau et enfin avec fusion par centrale inertielle. Donc on voit quand même que le résultat, donc ici c'est un petit peu plus flagrant, donc on voit que l'odométrie visuelle pure a tendance à quand même à dériver, et que dès qu'on commence à affiner le résultat par une méthode d'ajustement de faisceau, donc on a une certaine cohérence sur un tampon de vue qu'on a dans le passé, on commence à se rapprocher donc de la vérité terrain. Et enfin, donc là, dans le cas multimodal, si on utilise donc là dans ces travaux-là, c'est avec un fil de Kalman étendu. Si on fusionne les infos d'odométrie avec une centrale inertielle, on a des résultats qui commencent à être très bons. Alors, des travaux récents, ici intéressants, donc sur l'aspect structure from motion temps réel, sur notamment l'ajustement de faisceau local, ce qui est intéressant par rapport à l'estimation de la dérive et de l'intégrité qu'on peut avoir sur notre odométrie 3D, c'est la notion de propagation des incertitudes et de modélisation des erreurs. Donc là, il y a des travaux qui commencent à être faits, où là, donc, vous avez les ellipses de covariance, on les voit, donc bien sûr, grossir hein, au fur et à mesure qu'on avance dans le trajet. Donc normalement, avec des contraintes de fermeture de boucle, on doit annuler cette ellipse-là. Donc il y a des travaux, donc là, à l'heure actuelle, ça ne tourne pas en temps réel, mais je pense que c'est assez prometteur, dans la mesure où quand on fait de la fusion ou qu'on a une estimation d'odométrie boucle ouverte, c'est une information très importante. Alors, le point important ici, c'est, comme je vous l'ai dit, que la scène est dynamique. C'est-à-dire que quand on va faire de l'odométrie, essentiellement basée à mer, l'idée, c'est que la majorité des points appartiennent à l'environnement fixe. D'accord ? Donc, ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Donc, dans certaines situations, si on est derrière un camion ou si on arrive dans un rond-point, nos points d'intérêt, ils ont tendance à aller dans tous les sens ou être complètement absorbés par le véhicule qui passe. Donc, comment on fait, à l'heure actuelle, pour prendre en compte cette dynamique de scène et n'isoler que les points d'intérêt qui appartiennent à l'environnement fixe ? Eh bien, il n'y a pas, il n'y a pas 36 méthodes. Il y a l'utilisation de contraintes géométriques. Donc, quand on utilise une paire stéréo, il y a des contraintes de rigidité entre les deux vues. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les contraintes quadrifocales associées aux quatre vues, donc qui peut être décomposée en deux tenseurs trifocaux, ici. Et on peut, sinon, imposer, une fois qu'on a calculé, donc ça, c'est plutôt de l'outlier rejection, donc détection de points aberrants, mais il y a d'autres approches qui imposent des contraintes de rigidité directement entre les points 3D, c'est-à-dire que des points 3D d'un environnement fixe ne doivent pas se déformer entre les deux prises de vue. Donc ça, c'est plutôt de la détection de denier, donc de points contribuant à l'estimation. Et ces méthodes-là donc, sont souvent couplées avec des approches robustes, donc de type RANDSAC, ou alors M-estimateur et ajouté donc avec une méthode de moindre carré repondéré de manière itérative. Alors, quand on, si on s'intéresse à la fusion de multimodalité, donc notamment LIDAR stéréo, donc là je reprenais globalement les points forts de chacun des capteurs. Dans un premier temps, il va falloir faire ce qu'on appelle de l'étalonnage ou du calibrage, c'est-à-dire qu'il va falloir positionner, connaître la position avec précision spatiale entre nos deux capteurs. Donc là, je peux vous montrer les travaux qu'on a réalisés donc, sur notre véhicule. Donc on a le télémètre laser qui est à l'avant, on a une caméra ici derrière le pare-brise, donc elle est positionnée ici, donc il y a quand même un déplacement important entre ces deux capteurs. Et l'idée ici, ça a été de développer une méthode en utilisant une mire, donc non plus une mire circulaire pleine. Donc pourquoi une mire circulaire ici? C'est parce que d'un point de vue vision, ça fonctionne bien, d'accord, on peut étalonner, on peut connaître la position de la caméra avec précision par rapport à cette mire. Donc on a utilisé ce principe-là, mais en la perçant de telle sorte qu'elle soit détectée par le LIDAR. Donc une fois, avec un pré-traitement, qu'on arrive à détecter les trames qui ont impacté la mire, on a deux cercles 3D qui sont à la fois dans le repère caméra et dans le repère LIDAR. Et donc après, en utilisant une méthode de recalage, donc de type ICP ou SVD, on arrive, donc là-dessus, on couple une méthode non linéaire de minimisation. Ça permet donc d'estimer la transformation qu'on a entre le LIDAR et la caméra. Alors si maintenant on s'intéresse à la fusion, à proprement parler, multimodale, donc le problème dans une fusion multimodale, c'est que, comme je vous l'ai dit, à des moments, le capteur de vision il va être ébloui. Donc, dans ces cas-là, on pourra par exemple ne se reposer que sur le LIDAR. Ou à d'autres moments, on aura perdu du signal GPS, il faudra se reposer uniquement sur l'odométrie roue et le LIDAR, par exemple. Voilà. Donc l'idée, ça va être ça. C'est, à l'heure actuelle, il me semble que l'une des grandes difficultés, c'est de garantir une précision et une intégrité sur l'estimation donc d'odométrie 3D. Donc les stratégies de fusion, je ne reviens pas là-dessus. Donc il y a des stratégies donc complémentaires ou redondantes, compétitives ou coopératives, donc suivant l'application qu'on veut réaliser. Alors pour reprendre de manière très générique, donc on a deux types de couplages qu'on peut réaliser pour faire la fusion en endométrie 3D. Donc soit on dit que nos deux capteurs indépendamment fournissent une info odométrique et après on en fait la fusion avec d'autres capteurs et on en sort donc l'estimation avec son imprécision et son incertitude. Ou alors on fait ça vraiment bas niveau et là c'est ce qui est intéressant, donc on essaie de regrouper LIDAR et stéréo, donc vraiment au niveau point, et de calculer l'odométrie ici, mais en tenant compte donc des imprécisions qu'on peut avoir au niveau de l'étalonnage des capteurs. Alors pour finir, je vais vous présenter les travaux qu'on a retenus nous pour faire de l'odométrie 3D multimodale. C'est un schéma donc assez classique, c'est-à-dire qu'on a une paire stéréo, on va faire une extraction de points d'intérêt, on va faire un suivi. Et on va se baser en fait sur la méthode développée par Comporte, donc sur le tenseur quadrifocal, qu'on va utiliser comme contrainte de rigidité. Mais cette contrainte de rigidité-là, en fait, on va non pas l'utiliser sur une info photométrique de l'image, donc faire une mise en correspondance plutôt dense, mais on va l'utiliser d'un point de vue uniquement géométrique pour en fait générer un flot optique virtuel qui dépendra des paramètres de déplacement d'odométrie. Et donc on va reboucler ce système-là à travers un schéma d'IRLS et d'un M-estimateur, et on va pouvoir donc estimer de cette manière-là deux jeux de données qui seront donc les points d'intérêt aberrants et les points d'intérêt donc, que l'on va garder comme étant sur l'environnement statique. Et enfin, donc on sortira là-dessus une estimation du mouvement. Donc pour terminer, je vous montre les résultats qu'on a obtenus, donc je ne vais pas détailler. Je vais revenir juste ici. Alors, je vais y arriver comme ça. Voilà. Ça devrait marcher. Alors là, ça va être problématique. On va rien voir du tout. Je suis bloqué, je ne peux pas accéder en dessous. Bon, bah, ceux qui s'intéressent, je leur montrerai après. Alors, donc, pour finir, ici, cet exposé. Donc, de ce que j'ai pu voir, on est vraiment au début de la fusion multimodale, donc en termes d'odométrie optique. À l'heure actuelle, je n'ai pas vu de méthode vraiment multimodale qui utilise à la fois donc, le LIDAR et la vision, donc plus spécifiquement stéréo, et notamment pour calculer une odométrie 3D intègre. Donc une odométrie 3D intègre, là ce qui est intéressant, c'est notamment donc d'analyser le conflit qu'il peut y avoir donc pour évaluer la pertinence de chaque source d'information. Donc les autres problèmes ouverts à l'heure actuelle, donc comme je vous l'ai dit, la dynamique de scène, elle est souvent modélisée en fait par le rejet des points qui ne contribuent pas à l'estimation. Donc là, il faudrait peut-être développer donc des méthodes de modélisation plus fines de la dynamique de scène. Et notamment, donc, comme l'a exprimé donc, Olivier Strauss ce matin, exprimer, donc prendre en compte de manière simultanée l'imprécision et l'incertitude qu'on a sur l'estimation. Donc ça, notamment pour faire de la propagation d'erreurs. D'autres problèmes, donc, quand on utilise un LIDAR et puis une stéréo, donc, c'est qu'on a des différences de portée. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur le calibrage longue portée et notamment donc, sur l'auto-calibrage. Voilà. Et enfin, donc, des contraintes de puissance embarquées, ça bien sûr, pour avoir des approches plus denses. Désolé, j'ai beaucoup débordé. Merci de votre attention.